ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 9, 19, pardon. Colossiens, chapitre 1er, verset 19. Vous y êtes ? Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Il y a des risques à dire certaines choses. Quand ça a été dit, ça a été dit. Par exemple, j'ai noté cela, je ne mentirai pas. Après, il faut tenir parole, parce qu'on est surveillé. Hein. Si vous prétendez, par exemple, être des gens honnêtes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tirer sur vous à boulet rouge, parce que, quelque part, on veut vous amener à passer le cap et aller au-delà. Si vous voulez être honnête, et si vous prétendez être intègre, vous devenez une cible, et on va commencer à vous tirer dessus. Qui a entendu parler de Jimmy Carter? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Un jour, Jimmy Carter, alors qu'il était président des États-Unis, a dit « Je ne vous mentirai pas ». Ok, c'est dit. À partir de là, un correspondant du personnel de la Maison-Blanche a dit que dès que le président a fait cette déclaration, un groupe entier de correspondants a été déterminé à prouver qu'il a menti. Et ils ne se sont intéressés à rien d'autre, ni de son programme, ni ce qu'il allait faire, ni ses projets, rien du tout. Juste, ils voulaient prouver que cet homme était capable de mentir. Alors, dans quel état se trouve aujourd'hui notre monde? Certains vont dire, oh, ça pourrait être pire. Bien sûr que ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux. Hein, oui? Alors, pour commencer, Paul rappelle aux Colossiens quelle était leur situation avant leur conversion, avant de rencontrer Jésus. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous étions avant de venir à Dieu? Vous en souvenez plus? Bon, vous oubliez les mauvaises choses, hein? Mais quand même, il y a encore des traces, hein? Parce que l'accusateur se sert de certaines choses que nous avons faites, justement, pour nous les rappeler, pouvoir nous accuser, pouvoir nous stopper dans notre élan, etc. Alors, dans quel état se trouve le monde? Avant, finalement, de se tourner vers Dieu, et je crois que là, il faut de la vérité. Hein, qu'est-ce que je faisais avant? Quelles étaient mes pratiques? Quelles étaient ma vie? Quels étaient mes désirs? Mes pensées étaient où? Eh oui. Alors, Paul le dit, hein, il n'est pas de gants, il dit, vous étiez étrangers, et surtout, vous étiez ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres. Paul dit dans la même chose lorsqu'il écrit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Voilà. Quand nous sommes séparés de Dieu, nous sommes dans cet état. Et c'est dans ces choses-là que vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Finalement, c'est notre chair qui nous conduisait, qui nous dirigeait, qui, oui. Hein? Donc, la convoitise de notre chair, ou les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Je ne veux pas dire que j'étais le meilleur et tout le temps. Il fut un temps où j'étais plutôt ennemi de Dieu. Hein. Je suscitais la colère de Dieu. Hein. Eh oui. Alors, à propos du verset 21 de l'Épître aux Colossiens, je prends la version français courant. Elle traduit « Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez, oui, ça se passe déjà là, et que vous commettiez. » Alors ici, la Bible dit que nous étions tous dans un état d'aliénation, hein, c'est-à-dire d'éloignement. Aliénation vient du mot alien, ça vous dit quelque chose, les aliens? Non, c'est autre chose. Hein. Qui donne aliénus, c'est-à-dire étranger. Et c'est vrai qu'on était complètement étrangers. Je ne peux pas dire que j'ai toujours connu Dieu. Il y en a qui vous le disent dans leur témoignage. Moi, depuis tout petit, je me souviens, je pensais à Dieu, je cherchais Dieu, je voulais plaire à Dieu. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas mon cas jusqu'à l'âge de 30 ans, pratiquement. Alors, quand je regarde un petit peu, c'est des mots terribles, bien sûr, hein, être séparé de Dieu, étranger, ennemi de Dieu. Il n'y a pas pire comme ennemi. Ou peut-être l'adversaire. Mais quand on appartient au Seigneur, il n'a plus de force contre nous. Il n'a plus de pouvoir. Hein. Alors, il y a des mots terribles. Quand on regarde un petit peu, nous avons été créés à l'image de Dieu pour vivre en harmonie avec lui, pour l'aimer, pour lui plaire. Nous devions partager la gloire avec Dieu. Et voilà que Paul dit que nous étions comme des étrangers, des ennemis de Dieu. Vous voyez l'état de la société dans laquelle nous sommes? Tout va bien dans ce monde? La vérité est tout à fait différente, hein, à l'inverse. Alors étrangers, ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, non seulement nous avons commis des choses mauvaises, des œuvres mauvaises, mais par nos pensées, nous étions contre Dieu. Vous savez ce qui se passe dans la vie de ou dans l'esprit de celui qui est en face de vous, par exemple? À côté de qui vous travaillez, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Déjà, Marie ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit de sa femme, et inversement, bien sûr. Hein. C'est difficile, hein? Eh oui. Alors, oui, un petit peu. Par nos pensées, nous étions contre Dieu. Nous voulions ce qu'il ne fallait pas. Nos pensées étaient contraires à la volonté de Dieu. Donc, c'est une position, et je dirais, un temps particulier, mais particulièrement difficile. Peut-être que nous avons dit « Je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. » Oui. Mais en vérité, dès que ça nous dérangeait un peu trop, nous sommes bloqués, nous sommes braqués, nous sommes mis sur une position de défense. Et peut-être nous avons dit « Ça va trop loin, là. Ça va trop loin, qu'est-ce qui va me rester ?» Hein, quand il me dit « Il faut que tu me donnes tout, ton cœur, tout ce que tu es, ton être. » « Wow, mais qu'est-ce qui va me rester? Mais j'ai pu pouvoir vivre. » Or, la Bible nous dit que si nous acceptons le Fils, nous parvenons à la liberté. Et lui, il est riche. Il nous donne bien au-delà de ce que nous sommes capables de concevoir. Alors, quand je parle de cela, je dis qu'on aurait préféré que ce soit Dieu qui soit d'accord avec nous. Vous voyez, on a essayé de ramener Dieu à notre niveau. Hein, qui nous donne raison. Ouais, c'est bien. Ah, tu es formidable. Oui, oui. Hein, qui nous disent, c'est bien. Allez, continue comme ça. Tu es formidable. Hein, oui, oui. Hein, nous étions d'accord pour qu'il nous délivre, qu'il nous donne le nécessaire. Mais il n'était pas question que, par exemple, on le serve. Hein, ou que on l'adore, qu'on se soumette à lui, qu'on lui obéisse. Est-ce que c'est facile, l'obéissance? Combien de fois vous avez dû corriger vos enfants? Pour la même chose. Oui, maman, papa, je vais obéir. Parce que quand vous avez commencé à parler de punition ou de privation, le couperet allait tomber, bien sûr. Hein. Donc, à ce moment-là, eh bien, ils vous ont fait une belle, belle promesse, magnifique. Vous en aviez les larmes aux yeux. Hein. Et puis, quelques temps plus tard, oublié. Et c'est reparti. Eh oui, mais ça nous ressemble, sur nos enfants, mais on était comme ça. Je ne me rappelle pas des bêtises que j'ai faites, mais je me rappelle de certaines. Et ce n'était pas bien beau. En tout cas, dans sa lettre aux Romains, Paul dit ceci, Romains chapitre 1, verset 21. « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Alors le péché, la rébellion, la méchanceté, c'est quelque chose de courant dans la société. Non ? Ça devient même si habituel, eh bien que quelque part on n'y fait plus attention. Vous voyez, comme on dit, ça glisse maintenant. Avant, je me serais dressé, mais avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Vous voyez, quelque part, ça rentre, hein. Avec le temps, notre conscience, elle s'endurcit un peu. On ne fait plus la distinction entre le bien et le mal. Et oui, parce que comment expliquer qu'un homme prenne par exemple un fusil, il commence à tuer tout le monde, hein. J'ai le souvenir de ce qui s'est passé un jour. Un gars, il fait venir des façadiers. Il explique ce qu'il veut. Donc, il tombe d'accord sur la couleur de la façade, etc., sur le grain qu'ils allaient mettre. Et puis, donc, eux, ils se mettent au boulot. Le propriétaire, il part à son boulot. Puis, il rentre du travail. Il regarde. Il rentre dans la maison. Il ressort avec un fusil. Pouf, pouf. Le patron et l'ouvrier. Ah oui. Authentique, hein. Sa femme lui dit, mais je comprends pas, mon mari, il a jamais été comme ça. Jamais mon mari, j'aurais pensé qu'il prenne un fusil et qu'il soit capable de faire une telle chose. Il était contrarié, je sais pas ce qui s'est passé dans sa journée à lui, dans son travail. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pété un câble, comme on dit. Et puis, comment expliquer, hein? Comment une personne peut-elle commettre un adultère alors que cela va détruire sa réputation? Ça va briser le cœur des membres de sa famille. Et pourtant, il le fait. Comment expliquer qu'on puisse dire des paroles qui font mal, tout en sachant qu'on ne pourra plus les rattraper une fois qu'elles sont dites? C'est fini. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, c'est dit, c'est dit. Il faut tenir parole, il faut aller jusqu'au bout. Alors, tout cela ne peut venir que d'une intelligence confuse, et je dirais même endurcie à l'égard de Dieu. Vous savez, quand on résiste à Dieu, quand on s'endurcit contre Dieu, alors nous cherchons toujours à justifier, par exemple, notre comportement. Oh, j'ai rien fait de mal, c'est pas grand-chose. Pasteur, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Pourquoi je ne le ferais pas? Je ne suis pas plus bête, hein? Eh oui. Et souvent, c'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre. Des fois, c'est la faute n'a pas de chance. Eh oui. Alors bien sûr qu'on refuse tout jugement, hein, il ne faut pas discuter de ce qui est bien ou de ce qui est mal, ça nous met mal à l'aise. Si on dit que ça c'est mal, moi je croyais que c'était bien, et je suis persuadé que c'est bien, alors ça nous met mal à l'aise. Écoute, arrêtons de parler de cela. Eh oui. Alors à la place du mot péché, nous utilisons d'autres mots, d'autres expressions. Ainsi le péché n'est plus considéré comme péché. Hein. L'adultère, c'est avoir une aventure. Ça c'est l'adultère. Mentir, c'est épargner à quelqu'un la douloureuse vérité. Eh ben oui, et on est là maintenant. Hein. Convoitise, hein, la convoitise, c'est la recherche de l'abondance de Dieu. Ah, un esprit de division, c'est partager ses préoccupations. Vous comprenez un peu? On fait glisser, voyez? Ah. Alors certains peuvent penser que la Bible est cruelle, elle est dure, oui. Quand elle nous appelle ennemis de Dieu. Mais dites-moi, est-ce que Paul a vraiment exagéré? Il a dit la vérité, hein? Ah ouais, il a dit la vérité. Eh oui. On raconte l'histoire d'un homme. Chaque matin, il s'arrêtait devant la vitrine d'un horloger. Il fixait toujours une horloge en particulier. Hein? Un jour, le propriétaire de cette horlogerie va sortir parce que il le voit vraiment intéressé par cette horloge. Alors, il vient le voir et il lui dit, je vous ai remarqué là, tous les matins, vous vous arrêtez devant la vitrine, vous la regardez, elle est belle, franchement, elle est belle, hein. Alors, l'étranger, donc, cet homme-là va répondre qu'il était un peu confus d'admettre que c'était vrai. Chaque matin, il s'arrêtait, hein, parce que sa montre à lui n'était pas fiable. Alors, il l'a calé sur l'horloge, hein, sur l'heure de l'horloge. Et puis chaque matin, eh bien, comme il dit, je synchronise ma montre avec votre horloge, voyez-vous. Je suis responsable de l'horaire de fin de travail de l'usine. C'est moi, eh bien, qui donne le top départ. C'est-à-dire que c'est moi qui siffle à 16h. À 16h, je siffle. Le travail s'arrête. Alors l'horloger s'est mis à rire. Et puis il va lui dire, je dois vous avouer une chose, c'est que cette horloge, elle n'est pas fiable non plus. Alors, chaque jour, quand j'attends à 16h le coup de sifflet, je la remets à l'heure. Ah oui, vous voyez un petit peu. Ah oui, c'est ça, hein, chacun se fie à l'autre pour savoir comment se comporter. Puis on finit par être, je dirais, de plus en plus corrompu, de plus en plus à la dérive, de plus en plus malheureux. Ça, c'est ce qui se passe dans notre monde, bien sûr. Hein. Chacun va définir le bien ou le mal d'après l'opinion publique. Écoutez, tout le monde vit comme ça. Vous n'allez pas me reprendre pour ça. Moi, je ne reprends pas. Mais c'est le Seigneur qui va nous reprendre. Nous avons une conscience. Nous sommes capables de réfléchir. Nous sommes capables de voir si c'est bien ou si c'est mal. Et de faire le choix. Parce que le Seigneur ne nous force pas. Il ne nous oblige pas, bien sûr. Alors, finalement, aujourd'hui, c'est l'opinion publique qui détermine d'après ce qui est bien ou mal. De ce qui peut se pratiquer couramment. Vous voyez, c'est l'opinion publique. On oublie la parole de Dieu. Hein. Parce que qui a établi les lois qui, justement, qui nous permettent de vivre en harmonie les uns avec les autres, de vivre dans le bonheur, de vivre dans l'abondance, de vivre avec la paix dans le cœur. C'est le Seigneur. Alors est-il étonnant que notre société plonge de plus en plus vers la perversité ? Où se trouve la vérité? Dites-moi, où est la vérité? C'est ce qui est, dit Paul, ça peut sembler radical, bien sûr, mais il faut bien que quelqu'un nous dise la vérité. Non? Quelqu'un doit nous dire que si nous sommes sur le chemin de la bénédiction, pour marcher en paix avec Dieu, ou si nous sommes sur le chemin de la destruction. Si nous sommes en péril, bien sûr, il faut que quelqu'un nous le dise. Alors après leur avoir appelé ce qu'ils étaient, voilà que Paul leur raconte ce qui s'est passé après leur conversion. Colossiens 1, 21, je le reprends. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors si on prend ce groupe de mots, plusieurs groupes de mots, mais on les prend séparément, il vous a réconcilié. Souvenez-vous qu'il disait, vous étiez étrangers et ennemis. Nous avons, avant bien sûr cela, nous étions opposants, ennemis, et maintenant, voilà que nous sommes devenus ses amis. Et Paul le précise, c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Et comme le dit la parole de Dieu, il a livré à la mort son corps de chair, c'est-à-dire qu'il a pris forme humaine, il est devenu donc fils, et à partir de là, il a choisi le sacrifice, la mort expiatoire pour que nous puissions vivre. C'est-à-dire qu'il est devenu homme afin de pouvoir nous représenter, nous, les hommes, ou les femmes, bien sûr. Hein, voilà. Alors c'est grâce à sa mort sur la croix, quand il a donné sa vie pour nous, que la porte s'est ouverte pour notre salut. Amen. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui nous donne l'intelligence, la compréhension, renouvelle cette intelligence obscurcie, dépravée, pour nous donner une bonne conscience. Amen. Alors, si on poursuit notre analyse, il est dit pour vous faire paraître devant lui saint. Alors, je pense qu'on ne comprend pas toujours l'étendue que comporte notre salut. Quelle bénédiction est associée justement à la conversion. Quand je me suis converti, j'ai laissé tomber beaucoup de choses. Mais alors, qu'est-ce que j'ai reçu ? Comme bénédiction. Ah ouais, ça n'a pas de prix. Dormir du repos du juste. Alléluia. Formidable, hein ? Ne plus être tourmenté ou agité. Alors, le but de la rédemption n'est pas juste de nous empêcher d'aller en enfer. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi de nous rendre saints. Être saints entièrement à lui. Sanctifié par le sang de l'agneau. Amen. Il est dit sans défaut. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Le but du Seigneur, c'est de nous purger, de nous vider de tout péché. C'est que justement, eh bien, nous soyons complètement transformés dans notre vie entière. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Pas parce que je l'ai voulu, pas parce que je me suis privé, pas parce que... Non. J'ai fort de caractère. Non. Parce que c'est lui qui l'a fait. Il m'a visité par son esprit. Il a mis d'autres sentiments, d'autres désirs. Et c'est une vie totalement nouvelle qui coule en moi. Amen. Il est dit sans reproche. Le mot grec, anéclétos, signifie qui ne peut être traduit en justice, inattaquable. C'est fort. Et cela veut dire que nous sommes déclarés innocents et que toute charge contre nous s'effondre. Il n'y a plus de charge. Tu n'es plus coupable de rien. Même si l'adversaire monte là à la barre pour te dire que eh bien, tu as été coupable dans cette affaire-là, tu peux lui dire « je me suis repenti et j'ai été lavé par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ ». Ça, c'était avant. Amen. C'était avant. Maintenant, je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Une femme hollandaise, écrivain, croyante, du nom de Corrie ten Boom. Ça vous dit quelque chose? Elle a supporté pendant la Seconde Guerre mondiale le camp de Ravensbrück. Elle avait l'habitude de dire ceci. Jésus prend vos péchés présents, passés, futurs, et les a engloutis au fond de l'océan. Et ensuite, il met une pancarte « Pêche interdite ». Non, mais c'est parlant. Pêche interdite, vous y allez quand c'est pêche interdite? Si le garde-pêche, il vous tombe au-dessus, c'est bon, hein? Ou le gendarme, ou le policier. Alors oui, pêche interdite. N'allez pas les chercher au fond. Ils sont enfouis. Ils sont engloutis. Amen. Elle le poursuit en disant, le diable essaiera de trouver des tas d'accusations contre vous, mais elles sont irrécevables devant la cour de justice de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez, vous comprenez ces choses-là? Je suis né de nouveau. J'ai été lavé par le sang de l'agneau. J'appartiens au Seigneur de la vie. Je suis un enfant de Dieu. Il n'y a plus d'accusation contre moi quant à ma vie passée. Quant à ma vie présente, eh bien, j'ai besoin de me tenir devant le Seigneur constamment. J'ai besoin de marcher en nouveauté de vie. J'ai besoin de ne pas me laisser quelque part, allez, harponner à nouveau. J'ai besoin de faire en sorte que ma vie plaise au Seigneur. Alors je vais dire non à certaines choses et je vais dire oui à d'autres. Parce que celle-là le plaise au Seigneur. Alors Paul déclare ceci, qui accusera les élus de Dieu? Et la réponse, elle est simple. Personne, parce que c'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui nous justifie. Alors, quelle est notre réponse devant cette vérité? On peut déjà avoir entendu parler de ces choses, mais sans jamais avoir réellement pris position ou conscience de cela. Il faut le faire. Il faut prendre position. Le jour où j'ai dit oui au Seigneur, ma vie a complètement changé. Avant, je pensais faire le bien. Je voulais être le justicier, délégué syndical. Hein, voyez un petit peu. Et oui, oui. Alors, de ce fait, l'arme de l'adversaire est de monter au créneau de notre conscience pour nous accuser, pour essayer de nous paralyser, pour nous faire douter, si possible, nous couler. Ça, c'est son rôle. C'est son travail. De même qu'une cérémonie de mariage n'est pas le mariage, mais que c'est le départ. Des années après, vous pouvez vous souvenir du jour où vous avez dit « oui ». On s'en souvient, nous, hein? De même, vous devez être capable de dire tel jour, telle heure, « Seigneur, je t'ai donné mon cœur. Je t'ai dit oui, Seigneur. » Je me rappelle ça aussi. Vous en rappelez-vous? Oui. Maintenant, qui ne pêche pas? qui ne se trompe jamais, ne levez pas la main. Un jour, le pasteur demandait dans une grande réunion qui n'a jamais péché. Et puis là, il y a un homme qui lève la main. Et derrière, il y a eu une voix qui a dit, une voix féminine qui a dit, Arthur. Arthur, il a baissé la main. Ben oui, parce que c'est la vérité. On n'est pas infaillible. Hein? Eh oui. Qui ne fait jamais d'erreur? Personne. C'est pourquoi vous devez pouvoir dire chaque jour et sans appréhension, je dis bien sans appréhension, sans peur, Seigneur Jésus, je sais que mon cœur a besoin d'être purifié, encore changé, encore transformé. J'ai besoin de toi. Tous mes péchés sont là devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je veux encore me livrer à toi, comme au premier jour. Pardonne-moi, change-moi, fais le miracle dans ma vie. Parce que si ce n'est pas par la bouche qu'on pêche, on peut pécher par les yeux. Le Seigneur a dit un jour à un homme qu'il valait mieux qu'il perde ses yeux, qu'il soit aveugle, plutôt que de lui louper l'entrée dans le royaume de Dieu. Un jour, mon pasteur a dit à une femme, je ne sais plus trop ce qu'elle avait fait, et il a dit, vous êtes comme une anguille, vous voulez toujours glisser entre les mains du Seigneur, vous pouvez perdre vos jambes, vous serez la femme tronc, vous-même les bras, les jambes, les mains, etc. Mais vous entrez dans le royaume de Dieu parce que Dieu vous veut pour lui. Voyez ? Alors c'est important. Quand on se marie, les époux ne sont pas en train de ensuite de partir chacun de leur côté. Non, non, ils vont ensemble. Eh bien, c'est la même chose. Puisqu'ils sont unis pour la vie, je parle d'un couple, on est unis pour la vie, eh bien, on doit être unis pour la vie avec le Seigneur. Et là, il va prendre soin de nous, il va nous aider, il va nous encourager. Il sera là pour nous aider à persévérer, à ne pas succomber. Ah, puis il mettra un signal. Alarme, alarme, danger, 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 arrête. Fais demi-tour. Seigneur, merci. Pardonne-moi parce que j'avais vraiment cette pensée d'y aller. De faire, de toucher à ça. Et toi, tu m'as dit non, et j'ai persévéré. Et le feu s'est allumé, je l'ai vu. Et puis, heureusement qu'il y a eu l'alarme. Arrête. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, merci. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et elle est magnifique, l'œuvre de Dieu. Marchez en nouveauté de vie. Vous ne posez plus de questions. Le Seigneur va vous donner par-dessus. Parce qu'il veut prendre soin de vous. Amen. C'est son rôle, c'est son but. Gloire à Dieu. On va prier. Tout à l'heure, nous étions donc aux obsèques, notre sœur Antoinette, et beaucoup de monde. L'évangile a été prêché, et je pense qu'il y avait beaucoup d'inconvertis. Donc prions, on était quelques-uns là-bas, prions que Dieu puisse se servir de cette parole, de ce service funéraire, justement pour amener des hommes et des femmes à la conversion. Est-ce que vous avez entendu parler de Nicky Cruz? Je vous donne un exemple, simplement ceci, après on prend le temps de prier. Nicky Cruz, donc, était un opposant, il était un jeune, j'allais dire, marginal. Il était, excusez-moi, mais il était dans le péché jusqu'au fond. Hein. Bon, pas sa faute, ses parents l'ont lâché tout jeune, tout enfant, à New York, il était de Porto Rico. Et donc, il a vécu comme il a pu. Il a fait son trou, comme on dit. Il était devenu un criminel, il était devenu un chef de gang. Et il se convertit, il prêchait l'évangile dans la rue. Et son frère, un jour, le voit, lui dit, « C'est bien ce que tu fais. Et nos parents, tu y penses ?» Parce que Nicky Cruz, il ne voulait plus retourner à Porto Rico. Il ne voulait plus retourner vers ses parents. Et son frère qui lui dit ça. Ça l'a remué. Nicky Cruz a un ministère international. Il prêche de partout dans le monde. Ça l'a remué. Ça a tellement remué. Il a dit, il faut que je retourne voir mes parents. Il faut que j'y aille. Alors, il savait qu'en retournant là-bas, il retournait dans l'antre du diable. Ses parents touchaient aux ténèbres. Ils trafiquaient. Ils étaient les sorciers de la ville. Alors, il décide d'aller à Porto Rico. Puis, il va dans le quartier. Et il trouve une église. Il rentre et puis il explique ce qu'il voulait faire, ce qu'il s'apprêtait à faire, aller retourner voir ses parents, leur dire que Dieu les aime, qu'il voulait les voir convertis. Alors l'Église qui a entendu donc ces choses-là, on dit, mais on a essayé plusieurs fois, nous, de leur parler. Il ne nous est arrivé que des bricoles. C'est vraiment, ils ont une force, une puissance terrible. Alors on dit, qu'est-ce cause ? C'était ses parents quand même. Il avait été remué parce que son frère lui a dit. Et il a décidé quand même d'y aller. Il a dit, écoutez, priez pour moi, restez en prière si vous voulez. J'y vais à telle heure, je suis chez mes parents. Il est arrivé là-bas. Il a pu parler à ses parents. Il a pu les amener jusqu'au Seigneur. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'il fallait délivrer de ces puissances ténébreuses. Et sa maman, un jour, va mourir. Aux obsèques de sa maman, il y avait des milliers, des milliers, des milliers de personnes au cimetière. Et il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de conversions suite justement à la mort de sa maman, à la conversion qu'elle a vécue, qu'elle a vécue, bien sûr, parce que les gens ont vu la différence. Lumière, ténèbres. Ce n'est pas un peu les deux, non. C'est lumière, ténèbres. Elle est sortie des ténèbres, elle est allée jusqu'à la lumière, elle a vu la lumière. Et quand le Seigneur l'a rappelé, c'était une femme de Dieu. Vous voyez, il a prêché l'évangile, des milliers, des milliers, des milliers de conversions à Porto Rico. Amen. Voilà, ça c'est le travail du Seigneur. Il se sert de quelque chose comme cela, les obsèques, le service funéraire de quelqu'un, pour justement faire entendre l'évangile à ceux qui ne viendraient pas dans une église. Et voilà, moi je crois que des cœurs ont été touchés cet après-midi. Alors on va prier, et que Dieu également les visite. On continue à prier également pour ceux qui ont fait naufrage. Moi, j'ai à cœur de faire prier pour cela. Ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ceux qui se sont laissés arrêter par l'adversaire, par des circonstances. Ils ont besoin de revenir au Seigneur avec de bonnes dispositions de cœur. Et nous aussi, disposons nos cœurs à les attendre, à les accueillir de la bonne manière. Amen. Pas de jugement. Un jour, c'est peut-être moi qui aurai besoin de leur prière. Vous voyez, c'est ça. On est unis. C'est pas le monde qui va nous aider. C'est nous, entre frères et sœurs. C'est l'Église qui s'aide elle-même. Amen. On aide les faibles. On est forts aujourd'hui. Mais peut-être demain, on sera faible. On aura besoin de ceux qui étaient faibles et qui sont devenus forts parce qu'on a prié pour eux. On les a encouragés. On les a aidés. On les a pas jugés. Amen. Le seul qui peut nous juger, c'est le Seigneur. Amen. Alors, bénissons-le.